Claire Morin. Praticien et coach, tarifez vos services à leur juste valeur.
C'est très très compliqué. Donc en fait, pourquoi ce thème ? Vous savez, on enseigne en général le mieux ce dont on a le plus besoin. Et c'est vrai que moi, c'est de là que je viens. Donc je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être partager un petit peu mon histoire et puis ce que j'en ai fait. Et tout ça commence il y a quelques années. Je rencontre il faut savoir que je fais du coaching et de la formation en entreprise. Et je coach aussi des coachs. Je suis la coach qui coach les coachs. Et j'ai rencontré il y a quelques années une coach, une nana très sympa, mais qui vivait des choses. Alors, je ne gère pas la technique. Ouais. Si ça ne marche pas, pas grave, imaginez. What is wrong with this? It is not on. Ça pourrait expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Je suis maudite. OK. Ludon, sans le feu. Even though it's not working. Bon, bref. Je rencontre une coach qui a créé un institut de coaching qui semble... Ah, ben voilà. Oh. Ah oui, il faut que je vous dise aussi, j'ai fait mon PowerPoint au dernier moment. Et il y a des pages blanches sur lesquelles nous pourrons écrire tous ensemble. Waouh, j'adore. Je savais que j'aurais un problème avec ce truc. C'est pas grave. On va regarder ça, hein, puis si ça marche pas, ben... Et donc, je rencontre cette coach, ma page blanche. Wouhou ! Ça fait le... En fait, il n'y a que deux pages. J'en avais fait un peu plus. Voilà, ça ne marche plus du tout. Eh bien, ce n'est pas grave. Hein, on va faire sans filet. Oh, lui, il est fort. Et donc, je rencontre cette coach. Ses affaires ne sont pas très florissantes. Elle a vraiment des difficultés. Voilà, c'est sa vie. Laisse venir à toi les images. Bon, bah écoute, je savais que le PowerPoint, ce n'était pas pour moi si je vous racontais les problèmes que j'ai eus pour le faire. Hein, d'accord. Et donc, elle a plein de problèmes dans sa vie. Elle a créé un institut de coaching. Elle n'arrive pas à recruter. Ses affaires ne sont pas terribles. Et l'argent lui brûle les doigts. C'est une nana, dès qu'elle gagne de l'argent, elle le dépense. Dans plein de choses. Donc, elle est endettée. Et c'est une course en avant. Elle court sans cesse en avant pour essayer de gagner d'argent qu'elle dépense encore plus vite qu'elle l'a gagné. Et donc, elle a d'énormes problèmes. Mais elle court, elle court, elle court.
Tu aussi.
Alors, on sympathise et elle me demande de l'aider. Donc, on travaille ensemble. Et moi, je suis, très honnêtement, je suis touchée par sa détresse, je suis touchée par son histoire. Et j'accepte de l'aider. Alors, au début, oh Cathy, tu es trop forte. Vous connaissez ce geste ? C'est du tapping. OK. Voilà. Oh, c'est beau.
Ça, c'est encore plus beau. Ça marche.
Donc, en fait, au début, elle me paye les séances. Puis je lui fais un peu un tarif. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Oui. Ah, ben, attends. Et puis, on continue à travailler, commence à avoir des résultats. Mais elle a de moins en moins d'argent. Alors moi, je vole à son secours, comme toute bonne coach qui ne se respecte pas. Et je l'aide, je continue à travailler avec elle gratuitement. Et oui. Et sa situation s'empire de telle façon qu'elle est obligée de se mettre en faillite personnelle. C'est une procédure qui est spécifique à l'Alsace. Je viens de Strasbourg. Et c'est une procédure, si vous voulez, commune pour l'entreprise, mais pour une personne privée. Et donc, elle se met en faillite personnelle. Ses dettes sont annulées par le tribunal. Elle retourne dans son premier métier qui est l'optique et elle commence à reprendre un petit peu sa vie en main. Mais elle abandonne le coaching, elle abandonne ce qu'elle aimait vraiment. En plus de ça, oui, j'ai oublié de dire, elle avait d'énormes problèmes dans sa vie personnelle. Elle se sépare de son ami. Donc vraiment, c'était au fond du trou. Et elle commence à remonter. Moi, je l'aide, je lui fais je ne sais pas combien de séances, j'ai perdu le compte, sans me faire payer du tout. Et voilà, puis je n'entends plus parler d'elle. Je me dis, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et quelques mois ou un an après, elle me recontacte par un petit SMS. Elle me dit, comment tu vas ? Je dis, ça va bien, merci, toi. Et elle me dit, est-ce que tu fais toujours des séances en individuel ? Alors, il faut savoir que je travaille peu avec les particuliers, je travaille plus avec les coachs et les professionnels. Mais je ne suis pas fermée à travailler avec des particuliers. Et je lui dis, oui, je fais toujours des séances individuelles, mais j'ai beaucoup travaillé sur mon Penny Lusciller syndrome, sur mon syndrome, donc je ne travaille plus de la même façon. Mais tout ça par SMS, donc je lui dis, on peut en parler. Et elle me rappelle, elle laisse un message, j'étais en consultation, mais en séance, avec un client. Et elle me rappelle, elle me laisse un message, elle me dit, bah, écoute Sylvie, c'est super, on peut se voir tel jour, entre midi et deux chez moi. Sachant que j'habite, ça va vous plaire, à Pfaffenhofen. C'est un patelin dans l'Alsace profonde. C'est à peu près 30 minutes, 35 minutes de route de Strasbourg. Et elle habite près de Strasbourg. Donc ça veut dire, Sylvie, tu prends ta voiture, tu viens chez moi, tu me fais la séance entre midi et deux. Moi, si on me prive de manger, déjà, moi, pas content. Hein. Déjà, c'est pas bon. Hein. On parle pas de déjeuner, on parle de rien. Tu viens, puis je sais même pas si elle va me payer. Donc ma première réaction, quand j'entends le message, je dis, mais se prend pour qui celle-là? Franchement. Deuxième réaction, c'est, qu'est-ce que tu lui as appris? Comment tu as travaillé avec elle jusqu'à présent? Tu lui as toujours ouvert, tu lui as toujours permis, tu lui as montré que tu étais disponible, tu lui as dit, appelle-moi, je cours. Je paye les frais de déplacement et j'amène le déjeuner. Parce qu'il ne faut pas déconner. D'accord? Et là, je me dis, waouh! Voilà une opportunité de guérison pour toi, chère Sylvie. Hein, moi, il faut s'occuper de soi. Hein. Et je me dis, ok. Et je ne lui réponds pas tout de suite, je ne la rappelle pas tout de suite, je réfléchis à ce que je vais lui répondre. Et je lui fais un joli mail en lui disant, écoute, je serais ravie de recommencer à travailler avec toi, voilà quelles sont mes nouvelles conditions. Je vous expliquerai un petit peu après comment je travaille, ce qui peut être une réponse justement à ce que j'appelle, je ne suis pas la seule, le modèle de business du baiser de la mort, Kiss of Death Business Model. D'accord ? Ce genre... Juste une toute petite parenthèse, c'est genre la personne vous appelle, vous faites une séance, vous n'entendez plus parler d'elle parce que vous êtes trop efficace. Il faut arrêter ça. Économiquement, ce n'est pas viable. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et donc, elle m'appelle, je ne la rappelle pas et je lui envoie un mail. Et je lui envoie un mail et je lui dis, voilà, maintenant je travaille comme ça. Tac, 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 mes conditions, c'est ça. Boum, tac. Mes règles du jeu. Ce n'est plus toi qui décides, c'est moi. Je reprends ma vie en main en quelque sorte. Pas de réponse au mail. Et étrange. Et je me dis, je me suis peut-être trompée d'adresse email, elle a peut-être changé d'adresse mail. J'ai d'une grande naïveté. Et donc, je laisse passer 2 jours et je lui renvoie un autre mail sur une autre adresse iCloud. Vous savez, elle m'a envoyé ça sur mon iPhone. Donc, j'ai vu qu'il y avait une adresse iCloud. Je rebalance mon mail en lui disant, peut-être n'as-tu pas eu mon mail. Et elle me répond la phrase très laconique. J'ai bien eu ton mail, mais je réfléchis encore, ça représente une grosse somme pour moi. Et je regarde le mail, j'ai fait « Yes !» Je l'ai fait, c'est moi, j'ai fait. Parce que quand j'ai envoyé ce mail, je me suis dit « Tu payes, c'est bien. Tu payes pas, c'est bien. Pas de problème. Tu veux venir avec moi, ça coûte des sous. Parce que ce que je fais a de la valeur. Oh merde !» J'ai le droit de dire des gros mots, Cathy? Ok. C'est trop tard, c'est fait. J'ai le droit de penser que ce que je fais a de la valeur. Est-ce que ça veut dire que pour que les personnes qui travaillent avec moi, qui vont venir travailler avec moi, acceptent de payer le prix que je demande, il faut que je sois la première personne à reconnaître ma valeur. Et il y a un autre aspect, c'est que si la personne en face, elle est pas dans le syndrome de l'aidant, mais elle est dans le syndrome de l'aider, A-I-D-E, et qu'elle veut qu'on l'aide en disant... Ben, quelqu'un parlait à déjeuner tout à l'heure. Ah oui, il y a des gens qui viennent juste pour se plaindre et pour qu'on les plaigne. Moi, je veux bien, mais je double le tarif. Voire 3 fois. J'y réfléchis encore. C'est le package suprême. Et puis donc, depuis, pas de nouvelles. Et ça m'attriste horriblement. En attendant, ce que j'ai constaté en faisant ça, c'était une grande victoire sur moi-même, parce que très honnêtement, entre nous, ça ne se répétera pas, ça ne sortira pas d'ici. Mais mon premier réflexe, c'était « Attends-moi, j'arrive !» Parce que, qu'est-ce que je suis, moi? Moi, sauveur. Généralisons un petit peu ce débat sur la valeur que nous nous accordons à nous-mêmes. Il y a beaucoup, beaucoup de praticiens et de coachs qui, en fait, si vous voulez, se disent... Je suis économiste de formation. Hein. J'ai fait des études de sciences éco. Donc, rentabilité, productivité, tout ça, je connais pour les autres. Dans l'entreprise, j'ai été salariée dans des entreprises, j'ai été directrice commerciale, j'ai fait des choses super intéressantes. Non, mais c'est vrai, c'était bien. À l'époque, c'était bien. Donc, je sais, moi, je sais diriger une entreprise, je sais faire. Pas de problème, je sais compter. Surtout faire les factures, je sais très bien faire. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de nous, tout à coup, on n'arrive plus à vendre la prestation à son juste prix? Parce qu'on s'imagine qu'en faisant des prix d'appel, des promos, vous savez, dans les magasins, les grandes étiquettes jaunes, les grandes affiches jaunes, promo, prix lancement, prix d'appel. Vous savez ce que c'est que le prix d'appel? C'est un prix de repoussoir. Vous faites une séance, vous proposez votre séance. Alors, je ne sais pas quel est votre tarif. Vous proposez une séance à un tarif réduit. Le client, il se dit, oh, moi, j'aime bien faire des affaires. D'accord? Je vais le faire. J'en fais une, j'en fais deux, puis après, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Essayez d'aller dire à votre client que la séance, j'en sais rien moi, 50 euros, c'était un prix d'appel. En fin de compte, la séance, elle est à 95,12 euros. TVA, pas TVA. Et donc, on va se persuader comme ça nous-mêmes qu'en faisant des prix d'appel, on va attirer plein de gens. Mais on va peut-être attirer du monde, mais on va attirer les gens qui ne restent pas ou qui ne veulent pas investir dans leur propre bien-être et qui ne veulent pas travailler sur le long terme. Ça, c'est une question de valeur. Alors, c'est une question de valeur que, encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure, que vous vous accordez à vous-même. Quand j'étais à la fac, je me souviens, j'étais à Nancy, et j'avais deux copains dont la grande envie était d'avoir une voiture. On avait quoi, 19, 20 ans. Et puis, il y en a un qui a bossé comme un fou, en dehors des cours, etc. Puis qui s'est acheté, je me souviens à l'époque, une petite 205 blanche. Aujourd'hui, les 205, ça fait un peu voiture de collection, mais à l'époque, c'était moderne. Et cette voiture était une voiture d'occasion. Il l'aimait vraiment comme... Voilà, c'était la prunelle de ses yeux. Et l'autre copain venait d'une famille un petit peu aisée. Et ses parents, pour ses 20 ans, lui ont offert The Golf. GTI noir. La bombe. Toutes les filles... Ah, les garçons... Et tout le monde sautait sur la Golf. Mais le gars qui avait la Golf, ouais, il était content. C'était bien. Mais seulement, il ne prenait pas soin de sa voiture. Il ne la lavait jamais. C'était une vraie poubelle. Elle était pleine de bosses. Il n'en prenait pas soin. Et l'autre, avec sa petite 205 pas terrible, elle était toute belle, toute propre, etc. Pourquoi? Parce que dans un cas, une des voitures avait de la valeur, puisqu'il l'avait gagnée. Dans l'autre, ouais, de toute façon, ils m'en achèteront une autre. Waouh. Alors moi, ça m'a fait réfléchir quand même à l'époque, parce que je dis, waouh, quand même, une voiture, c'est quelque chose. Deuxième idée, vous n'êtes pas une structure à but non lucratif. Enfin, vous pouvez si vous voulez. Hein. Moi, personnellement, j'ai aucun problème par rapport à ça. Ne me faites pas non plus dire qu'il ne faut jamais faire de cadeaux et qu'il ne faut jamais tout ça. Mais ne commencez pas par ça. Commencez pas par offrir. La fidélisation, OK. Mais l'appât, marche pas. Et puis, aussi, ce n'est pas juste parce qu'imaginez qu'il y a plein de gens qui sont prêts à venir travailler avec vous pour un prix juste. Et puis, il y a des gens qui travaillent déjà avec vous à ce prix juste. Et à côté de ça, il y a des gens à qui vous faites des prix. Eux, ils rigolent, mais les autres, ils font la gueule. Donc, personne n'est content et vous, vous n'êtes pas content parce que vous dites « je m'épuise et je ne gagne pas ma vie ». Et ce syndrome de l'aidant sans le sou, ben, on va essayer d'en sortir. On va essayer de... Comment est-ce qu'on peut en sortir, hein? Imaginez que vous ayez vraiment un don. Qui va se manifester par l'EFT ou toute autre modalité, toute autre technique spirituelle, énergétique que vous utilisez. En imaginant que ce soit vraiment un don que vous avez développé. Si vous ne pouvez pas vivre avec ça, vous allez être obligé d'arrêter, vous allez être obligé de faire autre chose et vous allez priver le monde de votre don. Allô? Vous avez un don et vous ne l'utilisez pas? Non, ça ne va pas. Vous allez priver le monde du don que Dieu, selon votre sensibilité et vos convictions personnelles, dont le Très-Haut vous a gratifié. Les fées se sont penchées sur votre berceau et vous leur faites un bras d'honneur. Non, c'est pas gentil, ça. Alors, évidemment, c'est une façon un petit peu humoristique de présenter les choses, mais si vous voulez vraiment sortir de ce syndrome-là, travaillez sur votre propre valeur. On va y venir après. Et puis, une autre chose aussi, c'est que ce que je disais, c'est Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas proposer à vos clients des séances à tarif réduit ou des séances gratuites, mais comme cadeau. Cadeau de fidélisation, un package où vous proposez plusieurs séances pour tel tarif et vous rajoutez une séance gratuite, une séance d'urgence au téléphone. Je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses. Mais surtout, ne partez pas avec ça. Puis maintenant, si vous avez vraiment envie de faire de l'humanitaire, pourquoi pas ? Vous pouvez faire des conférences gratuites. Il y a des gens qui travaillent à Pôle emploi. Vous pouvez aller faire des interventions auprès de publics de demandeurs d'emploi. Vous faites ça pour le fun, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous rendez un petit peu quelque chose que vous avez. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais je ne sais pas vous, j'ai des habitudes très, très, très stupides. J'aime manger 3 fois par jour. J'aime dormir dans un endroit chauffé. C'est idiot, je sais. Mais bon, j'ai du mal. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Donc, effectivement, ce qu'il y a aussi dans le syndrome, c'est que les gens vous disent « Je ne peux pas me le permettre. » Tiens, est-ce que vous avez déjà eu comme ça des objections de clients ou de prospects, des gens qui vous disent « C'est trop cher. » Ouais ?
Bienvenue au club.
Et qu'est-ce que vous répondez à ça, tiens ? Je peux baisser le prix, bien sûr. Je suis pas sûre. Hein ? Je vous laisse réfléchir. Oh ! C'est joli, ça. Parce que tu le vaux bien. D'accord, ok. Donc, oui, c'est vous qui décidez. On pourrait imaginer toutes sortes de réponses à ça. Maintenant, le vrai travail à faire, c'est sur nous, le coach, le praticien, le thérapeute, se dire, moi, voilà mon prix, c'est mon prix. Vous voulez ? Je suis ravie. Vous voulez pas ? Je suis ravie. Parce que vous n'étiez pas digne de travailler avec moi. Vous n'êtes pas obligé de le dire, ça. Vous pouvez le penser, mais vous n'avez pas à le dire. Et puis, entre nous, contourner les objections, ça s'apprend. Et puis, quand on est au clair avec sa propre valeur, une petite page blanche, quand on est au clair avec sa propre valeur, ça va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, effectivement, ce que j'évoquais un petit peu au début, c'est que bien souvent, nous sommes dans un syndrome qu'on appelle le syndrome du sauveur, ou du sauveteur, pardon, on trouve les deux expressions. Et je voudrais vous parler juste pendant quelques minutes de ce qu'on appelle le triangle dramatique, dit triangle de Karpman. Triangle dramatique au sens du drame du théâtre, pas dans le sens, mon Dieu, c'est le sens, vous savez, les grandes envolées lyriques, je suis une dramaturge, vous en aviez peut-être pris conscience. Le triangle dramatique, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un jeu psychologique qui fait entrer 3 personnages. On peut entrer par n'importe quel bout, on a du mal à en sortir, et on peut changer les rôles. Et ces rôles sont donc au nombre de 3, qui dit triangle dit 3 rôles, jusque-là, c'est cohérent. Vous avez le persécuteur, vous avez la victime, et vous avez le sauveur. La victime, si vous voulez, c'est quelqu'un qui... C'est pas de ma faute, j'ai pas de chance. C'est toujours à moi que ça arrive. C'est le caliméro de notre enfance pour les gens de ma génération. Qui dit victime, dit persécuteur. C'est ta faute. T'es nul. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. C'est pas possible. Qui dit ce petit jeu qui se joue entre le persécuteur et la victime, vous voyez, le persécuteur, lui, pense qu'il est droit et qu'il est dans son droit et qu'il a le droit de remettre l'autre sur le droit chemin. Ça en fait des droits. La victime, c'est pas de chance. À ce moment-là, puisqu'il y a cette dyade entre le persécuteur et la victime, arrive sur son blanc destrier le sauveur. Toudoudoudou, je vais te sauver. Oh, moi, le grand sauveur, la personne généreuse, je suis bon et je vais t'aider. Devinez dans quelle catégorie la plupart des personnes qui sont dans cette pièce pourraient bien se trouver. Aucune réponse. Aucune réponse. Non. En plus, vous êtes dans le déni, vous avez vu ? Vous avez vu, c'est écrit. Alors, ce qui se passe, quelque chose de très, très intéressant dans cette dynamique, effectivement, chacun de nous aura une tendance à aller plutôt dans la victime ou plutôt dans le persécuteur, ou plutôt dans le sauveur. Chose étonnante, tous les gens qui choisissent la relation d'aide ont une très très nette tendance à être sauveur. Je vais t'aider. Moi, je peux. Quand même, on a quand même tous un ego surdimensionné. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors là où ça devient super intéressant, c'est que les rôles peuvent changer. Vous avez votre client. Allez, on va garder les termes de victime. Vous avez votre victime qui vient vous voir et qui vous dit « Vous êtes la seule personne qui pouvait m'aider. J'ai tout essayé. » Moi, ça me fait envie. Hein. J'ai tout essayé, personne. Ou alors, vous savez, le « personne ne peut rien pour moi ». Et à ce moment-là, vous avez votre super sauveur avec la cape rouge derrière qui se réveille, qui dit « Moi, super sauveur, je vais te sauver. » Comme, vous savez, Superman. En fait, ce n'est pas Superman, c'est sauveur. Le S, là. Moi, c'est Sylvie, hein, donc S, ça me va aussi, hein, pas de problème. Et à ce moment-là, vous dites à la victime, « N'aie crainte, ô pauvre petite victime, je vais m'occuper de toi. » La victime fait, « Oh, merci !» Et vous vous dites, « Waouh, mon Dieu, que je suis bien !» Et vous commencez à travailler. Et la victime, elle s'installe dans son petit confort de victime, parce que c'est confortable d'une certaine façon, de façon inconsciente. Et vous, vous en faites des tonnes et des tonnes, et vous vous épuisez. Et à un moment, vous ne pouvez plus. Et la victime vous fait « Ben alors, je t'attends, moi !» La victime devient persécuteur. Le sauveur devient la victime. C'est alors qu'arrive sur son blanc destrier un nouveau sauveur. Et le jeu continue. Et c'est vrai que si nous avons une tendance naturelle à endosser un des trois rôles que je viens donc de décrire, le persécuteur, la victime et le sauveur, nous aurons tendance à entrer dans le jeu par ce biais-là, sachant que ça peut changer. Le persécuteur est évacué, puisque c'est la victime qui prend ce rôle. Le sauveur devient la victime, un nouveau sauveur arrive. Et on recommence avec des joueurs différents. Jusqu'à ce que l'un dise « Game over, je ne joue plus. » Parce qu'il faut être trois pour jouer. On peut jouer à deux aussi. Hein. Victime sauveur, victime persécuteur, c'est marrant aussi. Hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie personnelle d'arriver dans une situation où deux personnes viennent de se disputer et puis vous vous dites « Oh, c'est pas possible, je ne peux pas supporter ça, je ne veux que paix, amour et harmonie. Je suis sur la voie de la spiritualité intense ou de la conscience spirituelle et donc autour de moi, je ne veux que bonheur et harmonie. Donc je vais aider ces gens qui se disputent, je vais les aider à comprendre leur erreur. » Et vous vous en prenez plein les dents. Les dents sans le sou, le revoilà. Et vous êtes par terre, le sauveur est complètement schplaf, croûté sur la glace, comme disait ma fille. Et le persécuteur et la victime qui s'étaient ligués contre vous pour vous casser la tête recommencent à se mettre dessus pour parler d'une façon très crue, mais que je pense que tout le monde peut comprendre. Et vous, vous êtes par terre et vous êtes cassé jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous relever et qu'on reparte. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a fait drôle. Je ne l'avais pas vu. Hein. Mais alors, ça va, Sylvie ? Oh non. Mais je crois que je vais rester un peu par terre parce que personnellement... Là où je suis, ça va. Donc voilà, si vous voulez, cette tendance que nous avons, il est important d'y être vigilant. Comment sortir du rôle de sauveur ? Identifiez votre tendance. Et sachez, il y a deux, trois petites règles comme ça, ce n'est pas très compliqué. Posez-vous quelques questions. Qui sont, par exemple, est-ce à moi de rendre ce service ? Pardon, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Est-ce qu'on m'a demandé mon aide ? Oui ? Ok. Non ? Passe ton chemin. Va des rétros, Satanas. Va des rétros, Sauvoras. Oui, ça marche aussi. Est-ce de ma responsabilité ? Est-ce que j'ai les compétences ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'ai les outils ? Est-ce que j'ai la formation ? Françoise parlait de formation ce matin, j'étais totalement d'accord avec ce que tu disais. Tu te formes, tu t'appropries les outils, et puis tu fais ce que tu as à faire après. Gary disait aussi, « Don't go where you don't belong. » N'allez pas là où vous n'êtes pas. C'est pas à vous d'y aller, vous n'êtes pas formé pour. Donc, effectivement, question, est-ce que je peux aider cette personne dans sa problématique ? Par exemple, les traumas graves, traumatisme grave, est-ce que vous êtes formé pour ça? Si vous n'y êtes pas, n'y allez pas. Où allez-vous former? Est-ce que pour travailler sur les addictions, est-ce que vous êtes formé? Oui, allez-y. Non, n'y allez pas. Vous savez, on a un peu tendance à se croire un petit peu tout puissant quand même. Avez-vous les moyens pour intervenir? Est-ce que c'est possible pour vous, en temps, etc.? Question subsidiaire. En avez-vous envie? Oh, ça fait chier, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, franchement, pour ceux d'entre vous qui êtes thérapeutes ou praticiens, que quelqu'un s'adresse à vous? J'ai pas envie. Oh non, pas lui. Au secours, comment est-ce qu'on protège son aura, son machin, son truc, et après on apprend tous les petits exercices, vous savez, de... Ok, I'm good. Autre question. Est-ce que l'autre qui vous a demandé son aide est prêt à faire sa part du travail? Ou est-ce qu'il attend que vous fassiez tout le boulot? Parce que si l'autre dit « Je ne peux pas, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai des mains comme ça, qu'est-ce que tu veux que je tienne un outil? T'inquiète pas, je vais la creuser, ta tranchée. » Ouais. Est-ce que je lui ai demandé si éventuellement, puisqu'il me parle de tous ses problèmes, s'il a besoin d'aide et s'il accepterait mon aide? Genre, as-tu envie de travailler avec moi? Ah oui, je veux bien travailler, mais surtout pas avec toi. Okay. Là, l'ego, on prend des coups aussi d'un petit peu de partout, mais bon. Et donc, effectivement, très, très important, est-ce que l'autre est prêt à faire sa part de boulot? Oui, non. C'est pas simple, hein. Je dis oui, non, mais c'est pas si simple que ça. Vous allez vite vous en rendre compte en admettant que l'autre vous dise « Oui, je vais faire ce qu'il faut, je vais faire ce qu'il faut. » Et puis quand vous lui demandez de faire un truc, il vous dit « Ah ben, j'ai pas pu parce que le chat a mangé la dissertation de ma fille qu'elle avait posée sur le lit. Et alors donc, j'ai dû aider ma fille à refaire la dissertation, j'ai pas pu faire mon tapping. » Il y a un truc aussi que j'entends souvent, c'est « Oui, mais moi, j'ai pas les mots comme tu dis. » J'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps, bien sûr, mais j'ai pas les mots. Exactement. Donc, je dis non. Arrête avec tes prétextes à deux balles. Tu pourrais faire. En poussant. Et puis, laisse aller. Puis, s'il y a des mots qui viennent, il y a des mots qui viennent. S'il n'y a pas de mots qui viennent, il n'y a pas de mots qui viennent. Ne me dis pas que t'as pas les mots. Qu'est-ce que tu ressens là? Je ressens. Ok, vas-y. Ça, évidemment, les gens se marrent, mais c'est en kikinant parce qu'ils n'ont plus d'excuses. Hein. Quand vous leur cassez leurs excuses, c'est un petit peu embêtant. Donc, effectivement, on a le droit de ne pas vouloir faire. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Si quelqu'un me dit « Je comprends, j'aurai un travail à faire, j'ai une problématique qui est lourde, qui est difficile, il faudrait, il serait bon, il serait souhaitable que je travaille dessus. » Si, moi j'ai des clients qui parlent comme ça. Hein. Je viens d'Alsace, hein. Donc les gens, ils parlent pas le français comme tout le monde. Hein. Parce que chez nous, si vous voulez, des fois, c'est quelque chose d'autre. Il faut quand même savoir que les gens vous regardent bête. Hein. Et que moi, quand je suis arrivée en Alsace, je suis pas originaire d'Alsace, quand je suis arrivée en Alsace, et les gens me parlaient, il y a des gens qui parlent, mais avec un accent comme ça. Et une fois, il y a une nana qui me parle, je me dis, mais pourquoi elle me parle en alsacien? C'est bien que je comprends pas, elle parlait français. Après, j'ai appris, mon oreille s'est faite. Il paraît que maintenant, j'ai l'accent. Ça, je ne le crois pas du tout, hein, même si je n'ai pas d'accent quand je parle. Je m'aime, mais je m'accepte complètement. Hein. Après, on se demande pourquoi j'ai étudié l'EFT en anglais. Parce que ce n'est pas le même accent. C'est très cher, manique. Bref. Donc, effectivement, si les gens sont dans le rôle de sauveur, ils vont avoir de grandes, grandes difficultés. Et puis, il y a une chose aussi, nous avons l'habitude de travailler avec nos clients sur leurs croyances limitantes, sur leurs blocages. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. J'en ai identifié un certain nombre, je ne dis pas du tout que la liste est exhaustive, ce n'est pas du tout ma prétention. Ce sont des croyances, si vous voulez, soit les miennes, soit des croyances qui m'ont été révélées par des clients. Comme dit, moi, je travaille beaucoup avec des coachs, avec des gens qui sont installés à leur compte. Donc, je mets le PowerPoint à disposition, bien sûr. Voilà. Il y en a deux pages comme ça. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de les traiter une par une. Il y en a une que j'aimerais travailler avec vous, si vous en êtes d'accord, qui n'est d'ailleurs pas sur cette diapo. Question. Je ne sais plus qui disait, c'était Déborah, je crois, qui disait la plus grande peur, une des grandes peurs des Français, c'est d'être ridicule. Moi, j'en ai identifié une autre grande peur, qui n'est pas spécialement française d'ailleurs. C'est de réussir. La peur de l'échec, on n'aime pas les échecs, franchement, c'est pas très marrant, quoi. Mais qui, ici dans cette salle, n'a jamais connu d'échec ? Même des petites choses, on en a tous connu. Alors après, vous avez la PNL qui arrive au grand galop et qui vous dit « il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des occasions d'apprentissage ». Moi, je suis pénéliste de formation, je ne vais quand même pas cracher dans la soupe, mais c'est beau. Donc l'échec, nous savons gérer, nous savons quoi en faire. Mais il y a une chose qui est très, très amusante, c'est si je réussis, qu'est-ce qui se passe ? Si je réussis, si moi, demain, j'ai vraiment la réussite que je souhaite, que je dis vouloir, que j'appelle de tous mes voeux, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, les impôts. La TVA. Moi, personnellement, je suis organisme de formation, je ne paye pas de TVA. Mais si je gagne demain plus d'argent qu'aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je risque de le perdre. Quoi d'autre ? Pardon ? Ah, et si les autres étaient jaloux ? Je vais changer ? Oh mon Dieu, quelle horreur ! Ça veut dire quoi, changer de mode de vie ? Ouais. Oui, tout à fait. J'aurais moins de temps pour moi. J'aurais trop d'argent, je ne saurais pas quoi en faire. Personnellement, pardon ? Ah oui, oui. Ah, l'argent n'est pas spirituel. C'est écrit où, ça ? Il existe une série de bouquins par Catherine Pander qui est « Les millionnaires de la Bible ». Où elle a écrit toute une série de livres, je ne sais pas si elle est anglaise ou américaine, je crois qu'elle est américaine, toute une série de livres où elle raconte des gens pris dans la Bible et puis des gens de l'époque, un petit peu de... Hein, ces gens-là vivaient d'une façon mais richissime que nous ne pouvons même pas imaginer. C'était des gens très spirituels. Jolie, jolie, elle est jolie celle-là, très belle. Un beau blocage, le beau cas. Je n'ai jamais connu la réussite auparavant. Ça veut dire que ce qui s'est passé va forcément se reproduire. Pardon ? Donc ça ne va pas durer.
Oh, elle est bien celle-là aussi, j'aime bien.
La réussite n'est pas pour moi, non. Non, savez-vous, moi je suis une victime aussi. Je suis un sauveur, mais je suis une victime. Parce qu'en fait, je suis une personne tellement spirituelle, tellement bonne, tellement merveilleuse, moi j'aime bien, que je n'ai pas besoin d'argent. Moi, ça se voit tout de suite que je vis que d'amour et d'eau fraîche. Hein. Franchement. La réussite n'est pas pour moi parce qu'on me l'a dit. Je crois que c'est Déborah qui disait tout à l'heure, t'es pas assez intelligente, d'avoir entendu ça dans son enfance. T'es pas assez intelligente. Il y a une chose quand même qui est importante, vous le savez peut-être, c'est que, ça c'est les travaux de Bruce Lipton qui ont beaucoup développé ça, c'est que jusqu'à à peu près l'âge de 7 ans, ce que nous appelons l'âge de raison, nous sommes des éponges, nous absorbons. Nous downloadons, nous téléchargeons les informations qui nous sont données par nos tiers référents, papa, maman, les instits, les profs, les copains, les gens de notre entourage pour qui nous avons de l'affection et de l'estime. Et tout ce que ces gens-là nous disent avant que nous ayons à peu près 7 ans, nous n'avons pas l'entendement nécessaire pour questionner, pour dire toi-même. Pourtant, c'est marrant parce que les petits ils vous disent « c'est celui qui le dit qui y est ». Ben, je vais vous dire, il faudrait vraiment qu'on se reprenne ça à notre avantage aujourd'hui. Quand quelqu'un vous dit un truc, vous dites « c'est celui qui le dit qui y est, c'est pas moi. » C'est pas moi. Donc la réussite n'est pas pour moi, c'est probablement, beaucoup de ces croyances d'ailleurs, sont des croyances héritées avant l'âge de 7 ans. Seulement le problème des croyances, vous le savez sans doute, c'est qu'elles sont inconscientes. C'est ça qui est drôle. Parce que si c'était conscient, vous pourriez la prendre, la regarder, lui dire « toi ». Out. Mais non, vous ne savez pas. Vous agissez, parfois vous ne comprenez même pas pourquoi vous agissez comme ça. Vous faites des trucs, allez entre nous, hein. Je ne le répéterai pas. Y en a-t-il parmi vous, je ne pense pas, hein, qui se soit déjà sabotée. Saboter. C'est quoi, hein, c'est quoi ça? Alors, sabotage, ça vient de l'époque de la révolution industrielle, lorsque les paysans venaient à la ville pour casser les machines avec les sabots. Puisque pour eux, c'était leur enlever le travail, etc., ou leur enlever la main-d'œuvre. Voilà d'où ça vient, le sabotage. Mais personne ne fait ça. Non? Personne ne fait du sabotage. Ouais. Si? Quoi? Ah! Je crois que j'étais la seule. Bien sûr, on sabote. Pourquoi on sabote? C'est pas pour moi. Je n'ai jamais connu la réussite auparavant. Je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que, parmi vous, quelqu'un a la recette de la réussite? J'achète. Une recette universelle qui fonctionnerait pour tout le monde. Vous avez, vous? Tu vois? Ouais, ok. D'accord, ça ne marchera pas forcément pour tout le monde. Je suis assez d'accord. Il faut choisir de faire confiance à la vie. J'irai même plus loin, mais alors moi je suis une avant-gardiste, me faire confiance à moi. Parce que la vie, elle a du boulot alors. Je ne mérite pas d'obtenir ce que je veux. Je ne suis pas assez bien. Ouais. Je ne mérite pas d'en avoir plus que les autres. Qu'est-ce qui fait que moi, Sylvie, j'ai le droit de gagner plus que d'autres? Bonne question. Oh. Big one. Je crois que je n'en vaux pas la peine. Pas bien. Rien ne fonctionne jamais pour moi. Là encore, c'est le passé qui revient au grand galop. Pourquoi le passé devrait-il obligatoirement se reproduire? Pourquoi? Ça a toujours été comme ça. Fini. Salut. Vous avez déjà entendu ça parmi dans vos clients? Tous les jours? Et là, il vous regarde et fait « Prouve-moi le contraire. » Ok. T'as 2 heures, t'as 2 jours. Je te prends en otage et je t'explique la vie façon Morin. Ouh. Vous savez comment certains de mes clients me surnomment? Ça va vous surprendre, je pense. Le bulldozer. Lentement, mais sûrement, je ne lâche jamais ma proie. Je crois que la vie est un combat. Il faut que je me batte. Il faut se battre. C'est difficile. Faut en chier. Faut en baver. Il faut souffrir. Il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour mettre un enfant au monde. Il faut souffrir parce que c'est bien. Power. Beaucoup de puissance dans ces mots. Hein? Comment? Oui, oh oui, oh. Il faut gagner son paradis. On parlait hier de différence entre religion et spiritualité. Et c'est là que tout se mélange. Avoir de l'argent n'est pas spirituel. Allez, on dénonce un peu là, on est entre nous. L'Église catholique. Prêche la pauvreté. Ils sont pleins aux as. C'est quand même un magnifique instrument de propagande, la religion. Je dénonce un peu, là. Je me lâche, c'est la fin d'après-midi. Hein. Waouh ! On a dit aux gens, tu seras malheureux sur Terre, tu vas en baver, tu vas souffrir pour gagner ton paradis. Et si c'était ici ? Hein ? Est-ce que j'ai besoin de descendre ou monter pour que ça soit bien ? Si c'était ici ? Vous vous rendez compte, toute cette chose qu'on trimballe, parce que je vous ai dit, il y a toutes les croyances qui nous ont été délivrées par nos tiers référents, mais il y a les croyances sociales, les croyances religieuses, toutes les croyances qui nous entourent. Les médias sont fabuleux pour ça. Ils passent leur temps à renforcer nos croyances, la croyance du manque. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si moi, j'ai du succès dans mes affaires, je vole quelqu'un d'autre. Comment ça ? Quoi donc, quand ça marche? Oh! Ah ouais, celle-là, elle est belle. C'est trop beau pour durer. Ça va te porter la poisse. Si tu réussis dans tes affaires, tu vas avoir de la malchance, ça va pas durer. Profites-en parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Hein. C'est comme la neige. Hein. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre encore de sympathique? je ne m'accepte pas en tant que personne. Bah oui, si j'ai entendu un peu très souvent, c'est pas très français ça, un peu trop souvent, ouais, mais de toute façon, toi, t'es trop petit, t'es trop con. Est-ce que vous savez à partir de combien de temps nous commençons à croire quelque chose qu'on nous dit ? Combien de fois, il faut nous le dire ? 3 fois. À partir de 3 fois, nous commençons à dire, tiens, je l'ai déjà entendu ça. Dit par les tiers référents avant les 7 ans. Combien de fois croyez-vous qu'un enfant de 7 ans a entendu dans ses 7 premières années, t'es bête ou quoi ? Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai gâché la vie de cet enfant, il va entrer en psychanalyse pour 20 ans, ce sera de ma faute. Ça marche bien, la faute, la culpabilisation, c'est génial. La culpabilité, c'est super. Moi, j'aime la culpabilité parce que c'est ça qui fait venir les gens chez nous. La culpabilité est un formidable recruteur. La honte, c'est bien aussi la honte. Le problème avec la honte, c'est que la honte est secrète et les gens n'en parlent pas. Ou même pas. Ils vont nous dire, ah, je me sens pas bien parce que... Ah, question, tiens. Reformulons. Combien d'entre vous, si vous faisiez quelque chose de maladroit ou si vous disiez quelque chose de blessant à quelqu'un, seriez capable de dire « Je suis désolée, j'ai fait une erreur, je regrette. » Tout le monde à peu près, hein ? Maintenant, imaginez que vous vous disiez... Ok. Imaginez que vous vous disiez... Oh non, c'est pas possible, je suis vraiment trop nulle. Comment est-ce que... Pourquoi j'ai fait ça ? C'est tellement méchant. Je suis méchante, je suis nulle, je suis pas sympa, tout ce que vous voulez. À qui allez-vous en parler ? Vous avez tellement honte, vous allez enfouir ce secret. Alors que si vous dites, oh, j'ai fait un truc con. Moi, personnellement, quand je fais un truc idiot, ça me fait rire. Parce que je trouve que dans ma connerie, il y a du génie. Ben ouais. Il y a du boulot derrière, hein, quand même. Je suis pas née comme ça en arrivant en disant, power flower people, je vais vous expliquer la vie. Non. Mais parfois, je fais des trucs, mais d'une bêtise, d'une rare finesse. Ça vous arrive ou pas, ou je suis la seule ? Est-ce que vous êtes capable, dans ce moment-là, de regarder ce que vous avez fait, de dire « Chapeau, chapeau bas, je dois dire que j'assure. » Moi, j'ai un compagnon qui est adorable, qui partage ma vie depuis 27 ans, donc déjà, il a du mérite. Lui, il me dit « Je comprends pas pourquoi ça te fait rire. » Je lui dis « Mais parce que c'est drôle. » Il me dit « Tu viens de casser une assiette, tu viens de faire un truc. » Parce que lui, il casse une assiette, il dit « Ah, que je suis con !» Alors, immanquablement, je lui dis « Non, tu n'es pas con, c'est ce que tu viens de faire qui est con. » Et il me regarde, il me fait « Arrête. » Ce qui est drôle, c'est que notre fille de 16 ans lui dit « Papa, reformule. » Et là, le papa, il nous regarde. Si les yeux pouvaient tuer, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, j'aime bien. Ok. Je ne m'accepte pas en tant que personne. Oui, quand même. Je ne peux pas accepter d'être là où j'en suis. Avec tout le travail que j'ai fait, comment se fait-il que j'en sois encore là aujourd'hui ? Venez me voir. Ou allez voir mes collègues qui sont tout aussi sympathiques que moi. Sympathiques, je ne sais pas, mais efficaces sûrement. Attends. Je ne suis pas venue de Strasbourg pour me tirer dans les pieds. Hein. Alors, le temps passe. Page blanche. Un petit peu de tapping, on n'a pas vraiment le temps. Maintenant, effectivement, comme... Ou alors on se fait un petit rapide sur la peur de la réussite. Let's go. Même si j'ai peur de réussir. Parce que je ne saurais... Oh pardon, j'ai oublié quelque chose. Attendez. Désolée, mais vraiment. Pour la petite histoire, c'est mon mari. Non, qui a choisi l'image. Ça fait toujours cet effet-là quand je commence. J'aurais dû faire du théâtre, c'est clair. Donc, allez. Non, c'est pas pour les points, c'est pour le beau jeune homme. Désolé, messieurs, j'ai pas la version, mais il faudrait que j'y pense. C'est du sexisme pur, j'en conviens. Même si j'ai peur de la réussite. Jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi. J'ai jamais rien fait de bien. Je suis un peu nulle. Je m'aime et je m'accepte là où j'en suis aujourd'hui. Admettons. Même si j'aimerais bien réussir. Ça doit être sympa. Je ne sais pas exactement ce que j'appelle la réussite, d'ailleurs. Ça serait bien d'y penser. Je fais une petite parenthèse. Ça serait bien de penser ce que c'est pour vous, la réussite. C'est quoi ? Je m'aime et je m'accepte totalement avec ça. Même si j'ai déjà essayé. Et ça n'a pas marché. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Je m'aime et je m'accepte totalement et complètement. Et je me pardonne. Je ne peux pas réussir. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais rien réussi. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je suis nulle. Hein. Faut s'y faire. J'y arriverai jamais. Et puis dans ma famille, personne n'est jamais arrivé à rien. On est tous des nuls. Comment est-ce que je pourrais arriver à réussir quelque chose ? J'ai jamais rien réussi. Peut-être que si. Non. Mais peut-être quand même. Si je cherche bien, je pourrais trouver quelque chose ? Non, là je suis en train de me mentir. Je suis en train de me raconter des bobards. Mais elles me font des grands signes. C'est pas du tapping, ça. Même si. Je suis perdue maintenant. Oui, donc. Et si je pouvais réussir quand même ? Non, c'est pas possible. Mais quand même, si j'insistais un peu, est-ce que je pourrais réussir ? Si je pouvais définir ce que c'est pour moi, la réussite, peut-être que je pourrais y arriver. Peut-être que je suis pas si nulle. Ou peut-être que je le suis, mais que ma nullité pourrait friser le génie. Je me laisse la porte ouverte à imaginer, à penser, à imaginer que je pourrais penser. Peut-être un jour, dans cette vie ou dans une autre, que je pourrais réussir. Ou si je choisis aujourd'hui de m'ouvrir à cette idée de ce qu'est la réussite pour moi, pas pour l'autre, pas pour le voisin, pour moi. Et en m'ouvrant à cette idée, je libère. Et je réussis. Oh, baby. Il me reste quoi ? 30 secondes et demie ? Carry on. OK. Alors, juste quelques mots. J'ai des pages blanches. Oui, non, mais en fait, il y a une page blanche quand même avant. Sortir du business model, the kiss of death. Hein ? Ça, c'est beau juste pour les hommes. Oui, non, ça devrait. N'exagérons rien. On ne peut pas tout avoir, ça serait injuste. Donc, effectivement, le business model du baiser de la mort, c'est effectivement vous distribuer comme ça un petit peu vos cartes. Vous prenez une séance par-ci, une séance par-là, vous ne demandez jamais aux gens qu'ils s'inscrivent dans la durée, dans un travail avec vous. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire de la psychanalyse pendant 15 ans, ce n'est pas le propos. Mais en une séance, on peut faire de très jolies choses, c'est clair. Mais si on veut vraiment faire un travail de fond, question, combien de séances il faudrait ? Par rapport à la problématique que le client vous apporte. Ça va changer, bien sûr, en fonction de la personne qui veut arrêter de fumer, la personne qui a des blocages, la personne qui a des blocages à la réussite. Le coach qui vient me voir et qui me dit « j'arrive pas à développer mon business parce que je manque de confiance en moi », je suis actuellement une jeune femme qui a créé il y a 2 ans et demi son agence de communication. Ça marche gentiment, mais elle voudrait passer à la vitesse supérieure. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est installée. Elle me dit « je manque de confiance en moi, je n'arrive pas à prendre la parole en public, à l'idée de faire une présentation devant un public, je suis paralysée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Alors je lui propose un package de 5 séances. On fait les 5 séances, elle bouge. Formidable. Et puis à la fin, elle me fait « Non, mais moi, je ne veux pas arrêter. Hein. » Parce que du coup, on a débloqué plein d'autres choses qui n'étaient pas la demande première. Vous savez que souvent, la demande première est un paravent. c'est derrière qu'il faudrait regarder. Et en fait, c'est une problématique de confiance en soi, de positionnement par rapport à ses parents. Elle a 30 et quelques années. Et donc, on travaille. On a fait du tapping, on a fait plein de choses. Et elle me dit, non, mais moi, j'arrête pas, on recommence. Je lui dis, bah, vous voyez ça comment? Elle me dit, non, mais c'est vous l'expert. Hein. Stop. Je dis, OK, ça. Elle a re-signé pour 6 séances. Un petit package, machin, même prix. Donc, effectivement, combien... La première question à se poser, c'est quelle transformation les personnes qui vont venir travailler avec vous vont-elles pouvoir vérifier? C'est quoi? C'est arrêter quelque chose? C'est être capable de faire quelque chose? Je ne sais pas, ça sera à vous de le voir. À votre avis, ça prend combien de temps? 5 séances? 10? 250? On trouve un juste milieu? Est-ce que c'est un nombre de séances? Est-ce que c'est une durée? Avec un nombre de séances, limite. En fait, il va falloir se poser un certain nombre de questions. De quoi ont-ils besoin? Du face-à-face avec vous? Peut-être une séance par Skype, une séance par téléphone, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir les enregistrements des séances que vous avez réalisées ensemble pour pouvoir réécouter, pour pouvoir refaire les exercices ou des notes de votre entretien? De quoi ils ont besoin? Et vous mettez tout ça dans un joli package que vous proposez. Et déjà, vous pouvez faire un joli travail de fond et non pas simplement... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une séance de temps en temps pour dépanner quelqu'un. Hein. Mais si vous voulez vraiment développer votre business, il est important que les gens s'inscrivent dans une certaine durée avec vous. Après, si vous voulez continuer à faire une séance de temps en temps et que vous arrivez à en vivre, moi, je suis contente pour vous. Hein. Moi, ça ne marche pas. C'est profondément décourageant. Vous savez, vous mettez tout ce que vous avez dans une séance pour donner à la personne l'envie de revenir. En plus, vous lui faites un prix. Ça, c'était avant. Et la personne ne revient pas. Ou alors, elle vous rappelle 2 ans après en disant « Tu viens de 12h15 à 13h12. Wow. » Et là, on se dit « Tiens, j'ai appris 2-3 choses. » Après, ben voilà, on peut comment dire, imaginer des exemples de packages. Mais surtout, ce que je voulais vous dire... Alors, c'est en anglais, mais... Je suis sympa avec vous. Eh oui, quand tu auras pris ce que tu vaux vraiment, tu arrêteras de faire des prix aux gens. Combien vous estimez votre propre valeur? Ça veut dire qu'il faut être aussi capable de dire non. Ce sera l'objet d'une autre conférence. Merci.